Vous écoutez l'émission Portrait d'un colonialiste. Dans cet épisode en deux parties, on va essayer de changer, à travers l'histoire des communautés juives, nos idées reçues sur la religion juive, pour découvrir comment cette religion résiste à l'État, comment elle survit de manière autonome à travers la tradition de la transmission, mais surtout on va s'intéresser au sionisme, pour essayer de comprendre comment le sionisme nous fait croire qu'il est le seul représentant des juifs, et ainsi nous faire croire qu'antisionisme égale antisémitisme. On décortique tout ça avec le collectif Tzedek, collectif juif antiraciste décolonial. Il se présente.
Moi, je suis Adam, donc un des membres du collectif Tzedek sur Marseille, qu'on a créé, enfin, on présentera le collectif plus tard. Donc moi, je suis doctorant en théologie à l'Université de Montréal, et la guerre à mes heures perdues aussi. Et enfin, ici, surtout au collectif, je suis là pour animer la yeshiva, l'étude talmudique et plus ou moins religieuse ou culturelle. Et aussi pour travailler toutes les questions politiques, conceptuelles, théoriques, et bien sûr pour être sur le terrain lors des manifestations, des prises de parole.
Moi, c'est Nathan. Je fais aussi partie de Tzedek à Marseille. Et je suis, j'ai fini mes études d'histoire. Pour le moment, je suis surveillant dans un collège. Et j'essaie de trouver du temps pour lire, pour militer et pour rassembler des éléments afin de poursuivre des recherches historiques.
Première partie, les communautés juives face à l'État.
Est-ce que vous pouvez déjà donner une première définition du sionisme? Parce que voilà, j'entends plein de choses différentes. Des gens qui se demandent si c'est une branche de la religion juive. Qu'est-ce que le sionisme?
Alors, en premier lieu, pour comprendre ce qu'est le sionisme, il faut affirmer son caractère politique. Pour aller très vite, c'est un mouvement politique apparu dans la seconde moitié du 19e siècle qui a pour objectif la création d'un État juif. Et ça s'arrête là, parce que ça n'était, dans les premières heures du sionisme, ça n'était pas du tout défini qu'il importait de s'installer, par exemple, en Palestine. C'est vraiment une idéologie qui est née de la modernité occidentale au sein du monde ou des mondes juifs, mais en particulier dans l'ère ashkénaze, notamment chez des élites assez bourgeoises, assez assimilées du monde juif ashkénaze, donc dans l'Europe, vers l'Europe centrale et orientale, disons. Et qui a pour objectif, en fait, de faire entrer le judaïsme dans la modernité en lui donnant l'attribut de qui est considéré par ses élites comme l'attribut absolu de la modernité, c'est-à-dire un état moderne qui régit une population déterminée avec des normes culturelles, sociales, institutionnelles issues de la modernité européenne occidentale.
Du coup, après ce petit moment de vocabulaire, on va passer à te faire un petit historique de ce que moi je sais sur la religion juive, en fait. Moi, j'ai eu une petite éducation catholique. Du coup, ce que je sais, pour moi, c'est l'une des trois religions du livre, monothéiste, qui s'est formée à peu près, du coup, là où il y a maintenant la Palestine. Alors, on ne sait pas trop quand. Entre 800 et 1800, enfin moi je sais pas, vous avez une idée de date
Moi je dirais que historiquement, après bon c'est pas les dates du livre, hein, mais je crois qu'historiquement c'est à peu près entre au tournant du premier millénaire, hein, c'est-à-dire 1200 et 1000 qu'apparaissent les premiers royaumes hébreux et les premières traces.
Les premières traces d'un
monothéisme.
De deux royaumes. En terre de Palestine.
Ouais, et d'abord d'un, et puis il y a une scission vers 700, je crois.
Quelque chose comme ça, mais enfin bon, il y a beaucoup de débats entre les historiens, heureusement.
Par là, quoi, vers 1000 avant Jésus-Christ.
Mais je peux apporter peut-être un petit point, c'est que déjà, la formation du judaïsme, même dans son histoire, entre guillemets, traditionnelle, biblique, elle n'a pas un seul commencement, elle en a plein. Et donc, elle ne naît pas exactement dans ce qu'on peut appeler la Palestine d'aujourd'hui, dans le territoire qui est entre la mer Méditerranée et le Jourdain. Elle naît, par exemple, à Ur, là où naît Abraham. Elle naît peut-être dans le Jardin d'Éden, là où naît Adam. Elle naît peut-être en Égypte.
là où naît ou en tout cas là où vont vivre les enfants de Jacob, elle naît peut-être encore une fois en Égypte, là où Moïse fait sortir son peuple. Dans le sens, le judaïsme a, un petit peu comme toutes les religions, plein d'épicentres sur lesquels elle se construit.
Pour moi, la religion juive, du coup, ça se base sur l'Ancien Testament. Après la religion juive, il y a la religion chrétienne, avec pour base un livre qui est la Bible, qui contient à la fois l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc, il reprend l'Ancien Testament, mais en rajoutant l'histoire de Jésus. La religion chrétienne, du coup, reconnaît Jésus comme Moïse, enfin, comme Messie, pardon, attendu, et pas dans la religion juive.
Oui, c'est ça. En fait, c'est pas tellement après, au sens où il y aurait une espèce de continuité théologique. C'est, en fait, la religion chrétienne, elle se constitue d'abord comme une secte au sein du monde juif. Hein. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens ne se considéraient pas comme tels. C'est a posteriori, ils se considéraient comme des juifs. En fait, il faut savoir que Ancien Testament, Nouveau Testament, ça vient de testamentum, qui veut dire alliance. Et il y a une première alliance qui est faite entre Dieu et un peuple déterminé, qui s'appelle les Hébreux. Au sens historique, c'est parce qu'en fait, c'était la religion nationale d'un peuple déterminé dans un royaume déterminé. Hein. Leur récit national à eux, c'était de dire tout simplement, nous n'avons qu'un Dieu, il n'y a qu'un Dieu, et il nous a choisis. Et c'était une façon de se distinguer, de s'affirmer, en fait, de se construire comme société. Ensuite, du coup, par contre, c'était une alliance avec le seul Dieu, mais une alliance qui n'était pas universelle, puisqu'elle n'avait vocation qu'à se nouer avec une population déterminée, les Hébreux. Ce que les chrétiens ont fait, par l'intermédiaire de la parole du Christ, c'est d'universaliser cette proposition d'alliance, de faire en sorte que le pacte entre Dieu et les hommes ne se fasse plus par l'intermédiaire d'un peuple déterminé, mais par l'humanité entière. En fait, Jésus, il généralise la promesse. Donc, en fait, c'est ça, le christianisme, c'est une espèce de déviation, une proposition, une universalisation du récit, de la tradition juive. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à l'époque où ça ne se construit pas comme en opposition, en tout cas pas directement. Évidemment, je pense, Adam, tu peux nous dire quelque chose sur la façon dont ces fois et ces religions vont entrer en concurrence, et c'est plutôt cette concurrence des deux promesses qui va faire en sorte qu'elles vont se construire progressivement comme différentes et comme opposées, en fait.
En tout cas, on a beaucoup l'idée donc d'un judaïsme qui est un christianisme qui est prosélyte et d'un judaïsme qui ne l'est pas. Bon, les travaux historiques nous montrent que ça n'est pas si évident et que même dans les communautés juives ou les communautés judaïsantes, il y avait des propositions prosélytes et que finalement, en tout cas dans une analyse plus matérielle, c'est un petit peu le christianisme qui, en gagnant, devient une forme de foi prosélyte et le judaïsme qui, entre guillemets, ça n'est pas la proposition de dire en perdant, mais en ne s'institutionnalisant pas comme religion d'empire, est obligé de trouver une autre forme pour perdurer sa proposition, qui est justement sa proposition d'alliance et de promesse. Même peut-être pour revenir, l'une des histoires, donc on appelle ça Midrash, les histoires qu'on raconte qui sont entre guillemets en dehors, ou en tout cas pas exactement explicites dans la Bible, donc les Midrash, il y a une histoire qui raconte que Dieu, sur le mont Sinaï, en proposant en fait la Torah aux Hébreux, il l'a avant proposé à tous les autres peuples qui ont dit non, parce que c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup d'interdits et d'obligations, donc personne n'en veut, et les Hébreux, eux aussi, disent non. Comme c'est le dernier peuple, Dieu, il est un petit peu fâché, alors il prend le mont Sinaï, il le met au-dessus des Hébreux et il dit, si vous ne prenez pas la Torah, alors je vous balance le mont Sinaï sur vous. Donc les Hébreux disent, bon d'accord, on va faire comme tu le dis, tu es notre Dieu.
Super sympa le petit Dieu.
Mais juste peut-être, je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres points, mais en tout cas, peut-être pour montrer que dans le judaïsme, les formes qui ont conduit au judaïsme moderne et d'ailleurs à toutes ces traditions, sont dans une conceptualisation de la transmission. Ce qu'on essaye de transmettre, c'est ces alliances, c'est justement ces liens qu'on a avec Dieu, qui ne sont pas essentiels en tant que tradition, mais qui ont une essence, bon, j'utilise des mots un petit peu universitaires, excusez-moi pour ça, mais qui prennent l'essence dans leur transmission de la promesse. Ce qu'on essaye de faire, et ce qui cimente, entre guillemets, cette idée de peuple, qui est d'ailleurs une conception qui, je pense, n'est pas moderne, en tout cas l'idée de peuple juif, qui n'est pas une conception moderne, qui ne prend pas l'idée moderne d'un peuple comme les États-nations, mais qui cimente le peuple autour de la transmission d'une promesse. Et tous ceux qui rentrent dans cette promesse, qui rentrent dans la transmission de cette promesse et qui sont légitimes pour pouvoir ensuite la transmettre, eux prennent le nom de juifs.
Carrément, du coup, en fait, par exemple, tu as parlé de prosélytisme, je me permets juste de... Enfin, je sais pas vraiment donner une définition, mais j'avais marqué qu'il y avait une espèce de concurrence entre la religion juive et la religion chrétienne pour ce prosélytisme-là, et que ça voulait un peu dire que c'était pour convaincre que sa religion était meilleure. Enfin, voilà, prosélytisme, dire qu'elle est la plus vraie, la seule, l'unique, en tout cas à travers ses traditions orales, ses prophètes, son livre, ses textes, ses coutumes.
Je vous le raconte ?
Oui.
En gros, l'histoire commence avec la promesse faite en effet à Ur au patriarche Abraham, qui est en fait le premier contact de Dieu avec les Juifs, qui ne se pense pas avec une personne en fait.
Peut-être qu'il n'est même pas juif.
Qui n'est même pas juif, c'est ça. En fait, c'est un drôle de commencement. Et puis ensuite, il y a son fils Isaac et puis son fils Jacob qui va avoir 12 enfants, dont un qui va être vendu par ses frères parce qu'il y a une histoire de jalousie et qui va être emmené comme esclave à la cour de Pharaon, qui va finalement par devenir un grand notable égyptien. Et je pense qu'à l'occasion d'une famine ou quelque chose comme ça, il va faire venir l'ensemble de ses frères et de la famille qu'ils ont fondée en Égypte. Donc je pense que c'est ça l'origine des 12 tribus. Exactement. C'est les 12 fils de Jacob. Jacob qui d'ailleurs prendra le nom d'Israël après s'être battu avec Dieu. C'est un épisode, enfin une espèce d'accolade avec Dieu, et puis après il est nommé Israël. Enfin, Jacob Israël a 12 fils qui sont à l'origine des 12 tribus d'Israël, qui vont venir en Égypte parce qu'ils vont finir par rejoindre Joseph, l'avant-dernier fils, parce qu'il y aura Benjamin après. Et au fil des générations, cette population va être exploitée, en fait, et mise en esclavage, discriminée par la société majoritaire égyptienne. Et ensuite vient l'histoire du prophète Moïse, histoire que tout le monde connaît, qui va en effet être sauvé d'un massacre orchestré par Pharaon, qui veut tuer tous les premiers fils ou derniers fils.
Non, tous les fils.
Tous les fils, tous les fils.
Qui interdit les enfants mâles de pouvoir naître et qui les envoie aux crocodiles.
Voilà, c'est ça. Et Moïse va être sauvé, mis dans le Nil par sa maman, recueilli justement, encore une fois, par la cour égyptienne, et puis il va finalement, en grandissant, prendre conscience de l'exploitation dont sont victimes les Hébreux, s'en aller, renouer avec, et puis découvrir Dieu par l'intermédiaire du buisson ardent, et avoir pour mission justement de libérer les Hébreux soumis à l'esclavage égyptien pour les amener en terre promise.
Carrément.
Juste une petite précision sur les nombres. Bah oui, dans la Bible évidemment c'est extrêmement exagéré. C'est des sociétés antiques, il faut se rappeler que c'est extrêmement précaire la vie, c'est des sociétés agricoles qui vivent au gré des aléas du climat, ça devait pas être beaucoup de monde quoi, ça dépendait sans doute des années, des cycles, des récoltes, tout ça.
Et puis peut-être pour donner un chiffre moderne, selon les différentes agences, il y aurait plus ou moins 15 millions de juifs actuellement, à l'ère moderne, mais encore une fois, tout dépend de qu'est-ce qu'on entend comme être juif.
Dont une moitié, je pense, à peu près vivrait en Israël.
Un petit peu moins d'une moitié. La partition, je crois qu'elle est de un tiers en Israël, un tiers à New York, dans l'État de New York, et le reste dans le monde entier. Dans le monde entier, je veux dire.
D'accord. Et du coup, si on revient sous l'Empire romain, donc face à la religion juive, c'est la religion chrétienne qui l'emporte et qui devient la religion officielle de l'Empire. Donc la religion chrétienne, afin qu'il n'y ait plus de concurrence avec la religion juive, persécute les personnes juives en essayant de les obliger à se convertir au christianisme. Donc de ce fait, la religion juive et la communauté juive se replient sur elles-mêmes parce que c'est très compliqué du coup de montrer son appartenance religieuse, etc.
Pour répondre, la conception de savoir qui gagne et perd, elle est un petit peu floue parce que quelle est la volonté ? Est-ce que la volonté, c'est de devenir étatique ? C'est de devenir être la représentante de l'Empire ? Ou peut-être d'être vécue par les personnes qui la vivent ? Y a plusieurs points. Déjà, tous les chrétiens n'avaient pas cette volonté, enfin tous les chrétiens, tous les proto-chrétiens, toutes les sectes donc n'avaient pas cette volonté à gagner entre guillemets l'Empire. D'ailleurs, beaucoup de sectes proto-chrétiennes ou chrétiennes, notamment ce qu'on appelle le gnosticisme, donc les martionnites, les valentiniens et d'autres vont être persécutés par l'Empire. D'ailleurs, comme l'étaient les chrétiens par l'Empire avant que l'Empire devienne chrétien. et les juifs aussi vont être considérés comme ces autres cultes ou comme ces autres sectes. Mais la proposition que je donne, c'est que est-ce que c'est forcément perdre ou gagner que d'être dans l'Empire, parce que le christianisme dans l'Empire se fonde dans la conception politique que l'Empire doit engager. Donc, elle est obligée non pas de devenir politique, mais de s'infiltrer dans toutes les différentes communautés, donc de ne devenir qu'une proposition de foi. Entre guillemets, c'est la proposition que c'est le politique qui va ensuite modifier la conception religieuse que la chrétienté propose.
D'accord.
Et c'est peut-être d'ailleurs que, comme le christianisme se porte plus sur la foi, qu'elle gagne plus facilement à avoir l'Empire. Donc juste pour finir là-dessus, c'est peut-être que le judaïsme, lui, ne se propose pas seulement comme foi, qu'il ne peut pas d'ailleurs advenir comme Empire.
Et c'est assez intéressant pour les questions qui vont nous intéresser un peu plus tard, parce qu'en fait, justement, au moment où se délie le lien entre religion et structure étatique, au moment de la chute du Second Temple, du coup, la religion juive devient une religion qui est séparée, en fait, d'un appareil institutionnel étatique. Et peu après, la religion chrétienne va faire le trajet inverse, c'est-à-dire épouser l'appareil étatique romain à partir de Constantin au 4e siècle, vers 337, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, et en fait, c'est intéressant parce que, et par ailleurs, l'Église ou la religion chrétienne, elle va aussi subsister à la chute de l'Empire romain, précisément parce qu'elle se reconfigure et qu'elle se scinde en fait de, elle arrive à créer les conditions d'une subsistance autonome, quoi, sans avoir besoin d'être l'appareil idéologique d'un État particulier. En fait, c'est intéressant parce que le sionisme, alors peut-être pas à ses débuts, mais peu à peu, en tout cas depuis la guerre de 67, avec ce qu'on appelle le sionisme religieux, repropose en fait une espèce d'immixtion extrêmement problématique, extrêmement malsaine, entre ce qui serait une tradition religieuse et ce qui serait les impératifs d'un État et de la gestion du territoire, de l'agrandissement du territoire.
Okay.
Voilà. Enfin, c'est des questions qui se posaient déjà dans l'Antiquité et qui se posent encore aujourd'hui. Le rapport entre une religion déterminée, une foi, et un appareil étatique, une structure de gouvernement des hommes et des femmes, enfin, des populations.
Du coup, comme tu le disais, en fait, la religion chrétienne, elle s'allie à différentes choses, soit l'Empire, les royautés et autres, pour perdurer. Et il y a des philosophes chrétiens, du coup, qui accusent le peuple juif de déicide, c'est-à-dire d'avoir tué Dieu. Bon, notamment d'avoir tué Jésus.
C'est la proposition chrétienne. Ça n'est peut-être pas de dire forcément que c'est parce qu'ils sont en compétition qu'ils structurent le Christ comme étant Dieu pour pouvoir accuser les Juifs de déicide. Il y a plusieurs historiens qui proposent réellement cette proposition, que donc les pères fondateurs, les pères de l'Église proposent le Christ comme Dieu, justement pour pouvoir accuser un peuple de quelque chose d'impardonnable. Okay. Parce que le déicide, c'est bien justement quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. Avoir enlevé Dieu aux humains, c'est la pire des fautes, et tout le peuple en devient maudit.
Du coup, on les accuse on les appelle peuple déicide, donc c'est une expression chrétienne anti-juive, créée pour inciter à la persécution des juifs, quand même.
Ouais. Oui. Alors, ici, on pourrait peut-être dire anti-judaïque, parce que c'est au sens où on parle d'anti-judaïsme chrétien, et qu'on le distingue, par exemple, de l'antisémitisme moderne.
Il n'y a pas encore de racialisation, en fait, de cette
population. On va venir après. Ouais. Du coup, c'est plutôt vis-à-vis de la religion qu'on parle pour l'instant. Et donc, il y a eu pas mal de persécutions. Qui se diminuent pendant Charlemagne, mais qui reviennent au niveau des croisades, donc vers 1096-1090, dans les États chrétiens, donc en Europe. Il y a l'armée, pendant la croisade, qui s'entraîne avec les paysans à des massacres de personnes de confession juive dans la vallée du Rhin. Et il y a aussi ce qu'on appelle des pogroms, donc des pillages et des massacres en nombre. En 1348, à Strasbourg, il y a 2000 personnes juives qui sont tuées pour accuser d'avoir propagé la peste noire. Il y a des pogroms réguliers en Espagne qui font au total, après ces chiffres sont toujours un peu compliqués à dire, mais on parle de 100 000 morts au total. Mmh. Donc il y a aussi également beaucoup d'expulsions. En fait, ça c'est pas rien, il y a quand même des expulsions, énormément d'expulsions, et on les force à se convertir ou à partir. Donc il y a en Espagne en 1492, à Arles en 1493, en Sicile, en Sardaigne, à Florence,
très en Épine,
en Provence en 1501 par exemple, enfin, c'est juste pour parler de choses aussi très, très proches. Donc il y a beaucoup de personnes juives qui partent dans d'autres terres d'accueil, notamment au Maghreb, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ou bien en Crimée ou vers l'Empire ottoman. Mm-hmm. Ce qui fait qu'à la fin du XVIIIe siècle, du fait d'avoir été opprimé, il y a un peu des personnes de confession juive, en fait, un peu partout, en fait.
Ben, juste pour un petit mot en avance de toute cette diaspora qui est forcée, avant la destruction du Second Temple, voire, selon les recherches, même du Premier Temple, des communautés juives dans plein d'endroits du monde, il y en a déjà.
On donne des dates, peut-être. C'est des dates structurantes pour l'histoire juive. C'est 500, je crois, pour le premier temple.
Un petit peu, c'est 693, et le Second Temple, donc c'est 70 après Jésus-Christ. Mais donc, en gros, on retrouve historiquement des communautés, notamment à Éléphantine, en Égypte. On retrouve ensuite des communautés en Perse. On retrouve surtout des communautés à Babylone, et ensuite dans tout le reste de l'Asie centrale et l'Asie mineure. Donc des communautés se sont déjà établies.
Mais ce que je comprends pas, c'est comment il peut y avoir des communautés dans ma croyance. En fait, on est juif par la mer, par descendance de la mer. Bah, comment c'est possible ?
Très bonne question. Le questionnement de la descendance et surtout de la filiation ou de l'identité qui aujourd'hui est plus ou moins... pas acquise d'ailleurs, parce qu'elle est débattue, mais la Bible nous donne déjà des exemples de personnes qui sont nées de mères non-juives, ou d'ailleurs même de pères non-juifs, et qui se représentent, ou en tout cas qui se légitiment d'une certaine parole juive, et qui vont reprendre place dans cette tradition pour pouvoir continuer cette transmission. Enfin, c'est dans le sens, il y a les premières propositions qui sont déjà de dire qu'il y a eu des avant la destruction du Second Temple, voire même du Premier, déjà des migrations des communautés juives, mais pas que des migrations. Il y a déjà eu des conversions de certaines populations avant les expulsions du Moyen-Âge. Des juifs, il y en avait déjà, non pas aux quatre coins du monde, mais déjà autour de toute la Méditerranée.
Voilà. L'histoire juive est faite de beaucoup de phases dans lesquelles des conversions se font en masse, des mélanges, un renouveau culturel. La diaspora, c'est pas simplement des poches issues d'un même lieu, etc. Le lieu, il devient, avec les années, beaucoup plus symbolique et culturel, et il s'inscrit dans une foi et dans des pratiques collectives, mais il n'est pas un rapport direct de « je veux rentrer là-bas, c'est de là que je viens », quoi. Et ça, il montre très bien. Et par exemple, tu parlais en effet des persécutions des juifs en Europe occidentale. Comme Adam l'a très bien rappelé, il y a des juifs sur tout le pourtour méditerranéen, il y en a vers l'Iran, il y a une immense dispersion. Et par exemple, une grosse partie des populations ashkénazes, c'est-à-dire d'Europe orientale, centrale, elle serait venue par la mer Noire, dans un royaume qui, plus ou moins à l'époque de Charlemagne, 7e, 9e siècle, s'appelait le royaume Khazar, et qui aurait été qui se serait converti en fait au judaïsme. Donc ça aurait été le roi des Khazars, je connais mal, hein, Shlomo en parle, se serait converti au judaïsme. Et donc du coup en fait la religion majoritaire de ce royaume, qui n'a pas tenu, je pense qui a disparu vers le 10-11e siècle, aurait été la religion juive, et ça aurait été un gros foyer justement à ce moment-là de conversion. Et alors les Ashkénazes, donc les juifs d'Europe orientale et centrale, les juifs qu'on appelle juifs allemands, seraient issus en fait notamment de ce grand moment de conversion et de reconfiguration du judaïsme qu'a été la phase Khazar.
Ce que propose le judaïsme, c'est la possibilité de se convertir à une promesse et à une transmission, et donc de rentrer à l'intérieur en se légitimant de sa parole. Tous les autres peuples d'ailleurs, Ashkénazes ou non, juifs, ne viennent pas forcément de Moïse, ne viennent pas forcément d'Abraham, mais ça n'est pas la proposition. Encore une fois, pour revenir à la proposition, je pense, du texte d'un berbère juif, c'est surtout la proposition donc du monothéisme, et par là, en fait, du refus de l'étatisation, ou en tout cas du refus de l'Empire, que se nourrit le plus le judaïsme, notamment au Maghreb, et ensuite dans l'Empire romain. Mais c'est vraiment que, parce qu'on a donc cette idée d'une transcendance ultime ou de quelque chose qui nous dépasse et qui serait une sorte d'unité, bon après il y a plein de débats là-dessus, mais entre guillemets un monothéisme, cette proposition permet justement de sortir de l'unicité du pouvoir étatique, de dire qu'au-dessus du pouvoir étatique, ben non, il y a Dieu. Alors je ne peux pas accepter totalement de me fondre dans l'Empire, dans l'identité standardisante d'un Empire, même si l'Empire, en fait, joue au-delà de ça. Mais je ne peux pas, en tout cas, en prendre la religion d'État.
Oui, ça c'est très important de rappeler que on parle de peuple juif parce que c'est une religion qui en effet mobilise ce concept et c'est une religion qui se pense comme peuple, qui pense à partir d'une appartenance de groupe extrêmement fort, d'un affect communautaire extrêmement fort. Mais il faut bien distinguer que ça n'est pas... C'est ça le problème du langage, c'est que c'est le même mot mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire c'est pas le peuple race de la modernité qui est lié à une filiation généalogique en fait. C'est le peuple d'une promesse, c'est le peuple d'une histoire commune, c'est le peuple lié par une histoire de transmission et de tradition, lié par un récit commun, lié par des pratiques communes. Et c'est pas le sang.
Du coup, ouais, c'est pour ça qu'on... Du coup, un peu en termes de définition, moi je me suis dit, en faisant un peu des... commençant un peu des recherches, que j'avais des fois envie d'employer l'expression des peuples juifs, des fois des communautés juives, et d'arrêter d'utiliser le mot peuple juif, parce que ça faisait un peu une unicité qui n'était pas claire pour moi, et en lisant l'histoire, etc., ça me paraissait plus clair d'employer ce mot au pluriel.
Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on peut amener là une définition un peu ouverte de ce que sont les Juifs. Pour moi, c'est une communauté de peuples ayant une communauté de destin liée à la religion. Oui, bon, à minima, c'est ça. Et il faut chasser cette histoire de sang, de repli sur soi, d'un peuple à la destinée millénaire, forcément séparé des autres. Par exemple, dans l'imaginaire commun... On entend souvent cette phrase qui est absurde, hein, mais on l'entend parce qu'elle est rentrée dans toutes les têtes. Oui, être juif, ça se transmet par la mère. Il faut sourire et dire ça, c'est quoi ça? Et moi, je voulais juste revenir sur la vague de persécution et d'expulsion dont tu as parlé. Ça aussi, ça va nous intéresser quand on va arriver sur le sujet du sionisme et de la Palestine. Ça aussi, c'est intégré dans le récit national sioniste de des juifs partout, tout le temps, persécutés, massacrés. En raison de leur état de dispersion. Et le médicament, c'est de revenir dans la mère patrie, d'avoir une armée, un drapeau, des frontières en état, et là, on ne sera plus jamais humilié comme on l'a été. Il faut pas, justement, sombrer dans une analyse idéaliste, transhistorique, du juif persécuté parce que dispersé, ça c'est vraiment des idées, en fait. Mais une analyse matérialiste expliquerait les choses par des coordonnées sociales tout à fait concrètes qui sont leur état de minorité, hein, le fait que la majorité chrétienne leur interdit d'exercer toute une série d'activités, leur interdit même de posséder des terres, ce qui en fait dans une société majoritairement agricole les accule à certaines activités sociales tout à fait singulières, par exemple le prêt usuraire, parce qu'en fait un chrétien ne peut pas prêter avec intérêt à un autre chrétien, donc les juifs vont être mis dans cette situation d'être les principaux prêteurs, les principaux agents financiers, notamment des puissants, des nobles, qui en fait leur empruntent énormément, et quand ils sont en banqueroute et quand ils ne peuvent pas les rembourser, bah les persécutent en fait et créent des mouvements populaires, enfin suscitent des mouvements populaires de détestation des juifs, voire les expulsent tout simplement. Généralement les causes des expulsions massives des juifs, elles sont financières, et elles sont liées vraiment à une configuration sociale dans laquelle les populations juives en Europe occidentale sont mises. Et donc en fait voilà, à CEDEC on est vraiment pour ce séquençage historique, cette analyse matérialiste du rapport des populations minoritaires aux populations majoritaires, et pas sombrer dans des espèces de récits en fait qui n'identifient jamais les causes et qui ne permettent jamais en fait d'agir concrètement, politiquement sur ces causes, à l'époque comme maintenant en fait. Sag nicht kein mal, als du gehst dem letzten Weg, Himmeln bleiene verstellen blaue Tag. Kommen wird durch unser ausgebänkte Schor. Sveta peugt an unser Trott, wir sehnen da. Kommen wird durch unser ausgebänkte Schor. Sveta peugt an unser Trott, wir sehnen da. Von grünem Palmenland bis Land von weißen Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Gefallen sie, so spritz von unser Blut, sprotzen wir dort unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen sie, so spritz von unser Blut, sprotzen wir dort unser Gwure, unser Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heid, und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Versammeln wird die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Nur ein
far zamen wenn die Sonne und der Kajor wie a parol soll gehen das Lied von dort zu dort.
Et justement, même pour revenir en fait à cette position, enfin en tout cas cette idée que le juif est le persécuté en tout temps, il faut aussi se rappeler que durant ces épisodes de persécution, les juifs n'étaient pas les seuls à être persécutés. En Provence, durant les expulsions, les exactions et les conversions forcées, ça part surtout des exactions qui ont été faites contre les cathares. Et ensuite, mais ça c'est pas en Provence, des Bogomiles, donc d'autres communautés qui ne s'identifiaient plus avec l'État et qui surtout proposaient quelque chose qui en sortait d'ailleurs. Mais d'autres, la Reconquista, ça n'est pas que les Juifs qui sont expulsés, et les conversions forcées, ça n'est pas que les Juifs qui sont forcés, mais dans le sens, à chaque fois les Juifs sont attaqués parce qu'ils proposent quelque chose d'inverse avec la politique étatique du pays.
Carrément. Et bah du coup, on va juste revenir en termes de date, donc à la fin du XVIIIe siècle, donc vers 1791, qui semble une date un peu charnière pour deux choses différentes. Donc on a parlé un peu de personnes juives un peu disséminées un peu partout, notamment aux portes de l'Europe, et notamment au niveau de l'Empire russe. Donc d'abord revenons aussi en Europe, donc suite à l'esprit des Lumières et à la Révolution française. En septembre 1791, l'Assemblée nationale française accorde la citoyenneté aux Juifs. Donc, dans une partie de l'Europe qui était oppressive, il y a la diffusion de notions de citoyenneté fondées sur l'égalité des droits, avec la transmission démocratique. Du coup, les conditions des personnes juives vont vers une intégration, on pourrait dire, et notamment dans les pays d'Europe de la côte atlantique, en comptant l'Allemagne et l'Autriche. Je dis ça parce que ça sera important pour la suite. Et à la même date, il y a un autre événement, donc toujours en 1791, c'est dans l'Empire russe, le gouvernement russe qui crée une zone de résidence, d'où les personnes juives n'ont pas le droit de sortir. C'est une espèce de ghetto géant, dont le but est que les juifs ne puissent s'installer ailleurs dans l'Empire russe. Donc je voudrais revenir un peu sur cette zone de résidence, où au début il y a 1,5 million de personnes juives. L'État russe gère la population juive de manière administrative en fonction des besoins de l'État. Donc je donne quelques exemples. Les personnes juives doivent habiter à 50 km des frontières austro-hongroises, à 20 km des frontières polonaises. Kiev, qui est pourtant dans la zone de résidence, est une ville interdite aux juifs et juives. Les lois militaires, en fait, qui sont quand même assez folles, qui obligent les jeunes juifs à accomplir un service militaire de 25 ans dès l'âge de 12 ans. Donc il y a des délations, des rapes d'enfants, ça concerne 60 000 personnes. Au début du siècle aussi, du coup, l'État accorde aux juifs des terres pour qu'ils s'installent au sud, l'Ukraine et la Crimée. 40 ans plus tard, l'État décide de leur retirer ces espaces cultivables pour les donner à des personnes non juives. Et surtout que après, du coup, si on passe dans le temps, après 1850, le capitalisme prend son essor dans l'Empire russe et le pays commence à s'industrialiser. Donc on utilise les personnes juives en fonction de la besoin de main-d'œuvre. Et c'est à ce moment-là qu'on force à l'urbanisation, c'est-à-dire qu'on force les personnes à vivre en ville. Bah, comment on fait ? Eh bien, on crée une loi qui interdit aux juifs d'habiter dans les campagnes. Et il y a aussi un autre truc dans le même temps qui est quand même assez fou, c'est de mettre des quotas dans les lycées et les facultés qui sont de 10% pour les personnes juives maximum. On ne peut pas avoir plus de 10% de personnes juives. Et ce quota baisse à 5% et 3% dans les villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Donc en fait, les gens, ils arrêtent d'étudier. Enfin, les personnes juives ne peuvent plus étudier et c'est un peu direction l'usine, quoi. Donc au long de ce siècle, la population juive est un peu utilisée en fonction des besoins de main-d'œuvre. Ça représente à la fin, donc en 1880, l'Empire russe, il y a une grosse augmentation de la population et il y a 6 millions de juifs dans la zone de résidence et ça représente à peu près 60% de la population juive mondiale.
Mais enfin, là-dessus, il y a un point qui est assez intéressant, c'est l'explication russe de pourquoi est-ce qu'il y a la création des ghettos, pourquoi est-ce qu'il y a la création des zones de résidence. Et un petit peu comme les premiers ghettos, donc le premier ghetto, ça va être Venise, c'est la même idée qu'on est là pour vous protéger parce qu'il y a des exactions. Notamment, il faudrait que je revoie les dates, mais cette zone de résidence arrive, je crois, un petit peu après les grands pogroms des Cosaques donc, qui arrive donc, je crois, en 1751 jusqu'à 1750, si je dis pas n'importe quoi. Il faudrait revoir les dates parce que je crois que je dis un petit peu n'importe quoi là-dessus. Mais en gros, c'est une réaction à dire bah, vous n'êtes pas en sécurité parce qu'il y a une haine contre vous qui d'ailleurs est une haine institutionnelle parce qu'elle est écrite dans certaines lois ou surtout en fait qu'elle est écrite par l'Église, justement avec le déicide, avec le protocole des sacrifices, avec l'idée que les juifs doivent avoir du sang d'un jeune prépubère ou d'un jeune chrétien vierge pour la Pâque juive, pour Pessah. Mais dans le sens, il y a toujours cette rhétorique de on vous protège, on vous met dans des endroits et finalement on va vous utiliser et quand on n'aura plus besoin de vous, on va vous demander de partir parce qu'on n'était pas là pour vous protéger dans les premiers moments.
Ouais, alors ça c'est assez intéressant de faire un petit pas en avant vers le 18-19e siècle parce que c'est un moment charnière dans l'histoire juive. Encore une fois, je rappelle d'Europe occidentale et orientale parce qu'on va voir qu'il y a une scission d'Europe, on va dire. Encore une fois, la situation est tout à fait différente sur le pourtour méditerranéen sous domination ottomane dans des populations majoritairement musulmanes. En fait, l'Europe occidentale, elle va être balayée par les processus de modernité économique et politique, donc l'avènement du capitalisme, avec tout ce que ça bouleverse dans les structures de vie, en fait, toutes les sociétés agricoles qui commencent à être détruites avec l'importance du fait religieux, qui n'était pas juste un fait privé, etc., quoi, qui était vraiment qui organisait, voilà, l'Angélus, si ce n'est, c'était la fin du travail, enfin, c'était des sociétés qui étaient religieuses en un sens plein, en un sens où la religion incarnait une totalité sociale. Et toutes ces structures de vie-là vont être balayées par la modernité capitaliste qui va acheter les terres pour qu'elles soient plus rentables, qui va faire l'exode rural, qui va envoyer des personnes, qui va les déraciner, qui va les envoyer dans les villes pour faire des activités tout à fait nouvelles, c'est-à-dire actionner des machines, etc., qui va détruire en fait les cultures populaires, pour reprendre des éléments de ton introduction. Il faut savoir que précisément les juifs qui dans les sociétés prémodernes étaient vraiment rivés, comme je l'ai dit, à un rôle social tout à fait particulier en lien au fait qu'ils ne pouvaient pas en fait pratiquer l'activité majoritaire qui était l'agriculture, vont se faire financiers ou artisans ou boutiquiers, etc., commerçants, enfin ils assuraient la courtier. Et ils travaillaient dans le commerce, quoi. Ils assuraient le... toutes ces activités qui ont trait au transport des marchandises, etc. Et en fait, il va y avoir une grosse scission parce que, de fait, la Révolution française va faire entrer en fait, le monde européen dans la modernité. Et il y a eu un mouvement qui s'opère au sein des intellectuels juifs, porté notamment par la figure de Moses Mendelssohn, qui va être, je crois qu'on appelle ça la Haskalah. Les Lumières juives, et qui va prôner en fait de sortir de la communauté orthodoxe fermée sur elle-même et en fait rivée à certaines sphères d'activité pour se, je sais pas s'il faut dire s'assimiler, mais enfin disons voilà, se répandre ou se mêler en fait à la culture majoritaire. Et ça c'est l'injonction de Mendelssohn, c'est-à-dire faire en sorte que les juifs épousent le mouvement de modernisation intellectuelle, culturelle, artistique, et la Révolution française va être le lieu en fait qui va permettre cette sortie pour les juifs de la communauté, puisqu'il va leur faire accéder à la citoyenneté. Et donc à partir de ce moment-là, on va avoir beaucoup de populations juives qui vont prendre à des degrés divers des distances vis-à-vis de la communauté et s'assimiler progressivement. Et c'est pour ça qu'en Europe occidentale, on va avoir une situation des populations juives très différente de l'Europe orientale, qui en fait ne va jamais épouser la Révolution française. Hein. Le tsar, c'est vraiment le chef de la Sainte Alliance contre-révolutionnaire qui veut maintenir les structures traditionnelles du pouvoir, en fait, liées à un État théocratique qui refuse en fait tout l'héritage des Lumières, etc. Et lui, et du coup, les Juifs en Europe orientale vont être considérés, en fait, traités très progressivement, enfin, très durablement comme au Moyen-Âge, c'est-à-dire d'une façon très autoritaire de les river, de les contrôler, de les surveiller. Et il va y avoir cet aspect hyper difficile à comprendre, qui est qu'on les gère comme au Moyen-Âge, alors que le capitalisme fait quand même son travail et détruit quand même les structures de vie. Ce qui fait que, et je finirai là-dessus parce que j'étais un peu long, la Russie et la Roumanie au fin du 19e, début du 20e siècle, sont vraiment des lieux où l'antisémitisme et où les persécutions des juifs sont les plus brutales et les plus insoutenables au monde. Et situation très différente du pourtour méditerranéen et de l'Europe occidentale, où la Révolution française, c'est très ambigu. Et d'ailleurs, des régimes vont revenir là-dessus. Hein. Le nazisme, c'est notamment ça. C'est notamment, les juifs sont devenus des citoyens, il y en a qu'on ne reconnaît même plus. Il faut absolument trouver des critères essentialistes pour les retrouver, des critères racialisants, parce qu'il y a des juifs qu'on ne reconnaît même plus, qui sont fondus dans les populations majoritaires. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses.
Non, d'accord, d'accord. Mais du coup, si on revient un peu du côté historique, parce que tu as fait un bon panoramique, en fait, il y a un moment, une grande dépression, donc à la fin du 19e siècle, vers 1873-1896, ouais. Et c'est là que les tendances xénophobes sont ravivées, c'est-à-dire c'est là que les peurs, l'hostilité envers l'étranger, en fait, envers ce qui est étranger, en fait, revient. Donc, c'est une époque d'intensification de la colonisation européenne. Donc, il y a aussi énormément de théories raciales pour justifier cette colonisation. Et donc, quand tu es loin de la métropole, ces gens-là sont du coup extérieurs de la métropole, donc considérés comme inférieurs, stagnants ou dégénérés, quoi. Les intellectuels et les scientifiques de cette époque créent des théories raciales scientifiquement complètement fausses, mais ils les appellent les races inférieures, quoi. Donc ainsi, du coup, à l'extérieur des frontières, ces races qu'ils appellent inférieures sont les colonisés, qui vont décrire comme les Noirs, les Arabes, les Asiatiques. Mais il y a également, en fait, un développement d'un racisme à l'intérieur des frontières, dans ce qu'on appellerait la métropole, de ces races dites inférieures, qui sont, du coup, les Juifs et les Tziganes, comme tu le disais, quoi. Tu voulais dire un mot ?
Ouais, je peux dire un mot, ça c'est super intéressant de voir à quel point, c'est pour ça qu'on est un collectif juif décolonial, c'est parce qu'on considère qu'en fait l'histoire juive doit se saisir avec les mêmes moyens critiques que ceux qui essayent de déconstruire voilà, le caractère, enfin, la rémanence du colonialisme dans nos sociétés, parce qu'en fait on considère que le passage de l'antijudaïsme chrétien à l'antisémitisme racial... par les élites européennes et notamment par des discours scientifiques tout à fait fallacieux comme tu l'as noté. En fait, c'est notamment lié à l'effet en retour du colonialisme européen. C'est-à-dire, en fait, l'Europe se découvre blanche en découvrant des populations complètement autres, complètement différentes, qu'elle va asservir et qu'elle va hiérarchiser et inférioriser pour les asservir. Donc elle se constitue en... Elle se découvre comme blanche, en fait, comme une population majoritaire qui a un rapport au... Elle construit son rapport au monde et son rapport à elle-même en asservissant et en colonisant. Et en miroir, cette façon de maintenant se découvrir comme blanche, parce qu'en fait, on a asservi des millions d'Africains dans la traite négrière, on a génocidé des populations autochtones d'Amérique latine, qu'on a été faire travailler dans les mines d'argent... Potosi, etc., à des fins justement d'accumulation primitive du capital, comme le rappellera Marx, en fait, ça va conditionner un certain rapport de l'Europe blanche au reste du monde, et en fait, aussi aux populations autres au sein de l'Europe. Et c'est à ce moment-là, c'est notamment l'expérience coloniale et le racisme généré dans l'expérience coloniale qui va faire que de l'antijudaïsme chrétien, on va passer progressivement à l'antisémitisme racial. C'est pour ça que nous, on explique la Shoah et l'extermination des Juifs comme notamment une espèce d'explosion du colonialisme, en fait, en tout cas des schémas et des modes de domination, de hiérarchisation, de racialisation du colonialisme au sein de l'Europe. C'est-à-dire, par exemple, une Allemagne frustrée d'avoir, par exemple, échoué la course à la colonisation, qui va en fait déployer cette puissance de domination inouïe au sein de l'Europe vis-à-vis des autres nations, et notamment vis-à-vis des populations minoritaires dans ces nations, à commencer par les Juifs et les Tziganes.
Carrément. Et du coup, en fait, c'est exactement à cette époque qu'on invente le mot antisémite. Ouais. Du coup, à la base, le mot sémite, ça désigne un groupe linguistique, donc un groupe de langues dont fait partie l'hébreu et l'arabe. Et du coup, il y a une espèce de glissement à cette époque coloniale. Donc c'est un mec, qui est, un journaliste qui invente le mot antisémite. Donc il y a un glissement du mot qui ne désigne plus du coup un langage, mais des personnes qui sont attribuées à un certain nombre de traits physiques ou de caractère moral.
Et ce qui est génial à ce moment-là, c'est que les Juifs ne parlent pas hébreu. Juste pour bien montrer que la tentative de racialisation, elle est totale et elle est essentialisante. Elle porte justement à dire que... Enfin, elle est presque biblique. Elle revient sur le point que les Juifs ne viennent pas d'ici, ils viennent d'ailleurs, et ils s'essentialisent autour de cette sémitisation, ou en tout cas qu'ils viennent du Moyen-Orient, qu'ils ne viennent pas d'ici. Donc on a vraiment en fait ce jeu essentialisant et racialisant qui donc porte une essence dans la naissance d'une nation, un petit peu comme on l'a fait avec les Barvalos et les Roms, comme quoi ils ne viennent pas d'ici eux non plus, ils viendraient d'Inde, je sais pas vraiment quel est le point là-dessus, mais c'est toujours trouver donc une origine qui est ailleurs pour pouvoir en fait justifier les positions racistes de les faire partir.
Ouais, ça c'est très intéressant, la naissance du mot antisémitisme. Généralement on entend beaucoup de bêtises là-dessus, c'est-à-dire ah oui en fait on est des sémites comme ça. En fait c'est dire à quel point déjà les processus de racialisation sont irrationnels. C'est en effet à partir d'une appartenance linguistique commune d'antan supposée, on va te soustraire à la population majoritaire et te ramener à une origine complètement idéalisée. Ce qui est intéressant de voir, c'est que précisément en fait, comme je l'expliquais, avec notamment les effets de la Révolution française, l'assimilation par l'accès à la citoyenneté des Juifs et des Juives, surtout des Juifs, il y a en effet cette dissolution en fait de beaucoup de Juifs dans la population majoritaire. Et du coup, il va y avoir une réponse en retour, en lien notamment avec les crispations identitaires liées à la crise du capitalisme que tu rappelais, qui va vouloir en fait retrouver les Juifs perdus dans la majorité et les soustraire et leur rappeler vous ne venez pas d'ici. Et en lien avec le colonialisme et notamment le colonialisme du Maghreb, on va trouver ce mot antisémitisme parce qu'on est en train de coloniser l'Algérie, on est en train de coloniser tout le bassin méditerranéen de culture arabo-musulmane quoi. Et du coup en fait Wilhelm Marr, je crois que c'est ça son nom, un journaliste antisémite, et il faut toujours rappeler que ce mot est créé par un antisémite pour les antisémites hein. Il va associer des Juifs qui en fait après, on l'a rappelé déjà, même pas, j'allais dire après 2000 ans de présence, des Juifs dont on a rappelé qu'en fait ils ne peuvent pas être rattachés à une essence ou à un lieu d'origine, en fait, tout simplement. C'est des gens qui sont blancs, les Juifs allemands, ils sont les Ashkénazes, ils parlent allemand, ils parlent français, ils parlent les langues dans lesquelles, ils parlent yiddish, qui est un dialecte à eux, qui est imprégné d'hébreu, mais voilà. Très éloigné. Et en fait, il va les ramener en les fondant avec les populations musulmanes en train d'être communiquées, d'être colonisées, à une origine commune orientale. On est au beau milieu de la vague colonialiste orientaliste pour dire vous n'êtes pas d'ici. Le mot antisémitisme, c'est ramener les Juifs à leur essence sémitique par la langue, en les associant aux populations musulmanes qu'on est en train de coloniser pour leur rappeler vous n'êtes pas d'ici, vous ne serez jamais d'ici.
Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von a Fegeläuf der Frei. Das hat a Volk zwischen fallende gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände.
La part qu'elle donne, elle dit que partout où on est, partout où notre sang coule, nous sommes là pour revivre. Et non pas un seul endroit, et encore plus, non pas dans un endroit où on est là pour opprimer. Toute la chanson est une chanson justement de lutte des opprimés contre son oppression. Et en gros, je vais juste me répéter, des fois c'est important de se répéter, mais c'est que c'est une chanson qui est beaucoup trop reprise par ceux qui oppriment aujourd'hui, et qu'il faut qu'on lui donne une place dans les lieux de lutte, dans les lieux militants, pour que nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire à Tzedek, on réintègre toute une tradition de lutte des opprimés contre leur oppresseur. Voilà, je vais finir là-dessus sur cette chanson.
À l'époque, à la fin du 19e siècle, donc en réaction du coup à tout cet antisémitisme, donc du passage de l'antijudaïsme religieux à l'antisémitisme racial, il y a trois mouvements qui émergent des peuples juifs. Donc il y a les Haredim, qui est un mouvement religieux orthodoxe qui rejette particulièrement le monde moderne et sa modernité. Le Bund, qui est dans un contexte de prolétariat grandissant, donc du coup de prolétariat de chômeurs, chômeuses, de travailleurs qui sont exploités par une classe dominante, qui suite aux lectures de Marx va essayer de se constituer. C'est un mouvement révolutionnaire autonome, plutôt socialiste, qui essaye d'émerger, qui s'appelle le Bund, et qui va disparaître avec la Shoah. Et il y a le sionisme, du coup, qui, à la même époque, arrive. Donc c'est un mouvement plutôt bourgeois, à l'initiative de Theodor Herzl, principal fondateur de ce mouvement bourgeois moi que je dis nationaliste, colonialiste, qui du coup, en fait, rejette la religion et qui recherche un territoire pour le peuple juif. Donc, c'est ce qu'on appelle, du coup, les sionistes qui décident qu'ils veulent un état-nation pour le peuple juif. Donc, ils hésitent entre plusieurs territoires et à un moment, ils déterminent finalement la Palestine.
Je ne sais pas sur quel point on peut revenir, mais...
Sur le Bund, on peut peut-être dire deux, trois mots. Oui, c'est ça, c'est... Il faut dire qu'il y a toute une ère culturelle qu'on appelle le Yiddish Land qui est constituée de plusieurs millions en fait, de juifs qui va de l'Allemagne de l'Est à la Russie en fait, en passant par la Pologne, la Lituanie, et qui voit dans tous ces états-nations en construction une minorité juive importante. Et qui partagent des conditions culturelles liées à la religion, même si la religion joue un rôle de moins en moins grand, en lien justement avec l'influence des idées socialistes et la modernisation du processus de production qui en effet prolétarise énormément de travailleurs et de travailleuses juifs et juives. Et donc en fait ça va être une proposition de lutte concurrente en fait au sionisme, c'est-à-dire de lutte pour l'émancipation des juifs par, d'une part, la participation des juifs à la lutte pour l'émancipation du prolétariat mondial et pour la fin du capitalisme, et d'autre part pour justement refaçonner la logique hiérarchique autoritaire des états-nations en construction en prônant ce qu'ils appelaient l'autonomie culturelle, c'est-à-dire en fait un respect des caractéristiques spécifiques, des particularismes culturels liés aux minorités juives dans chaque état-nation. Donc d'une part lutter contre le capital, d'une part lutter contre les tendances homogénéisantes des états-nations dans lesquelles les juifs sont amenés à vivre.
Carrément, et du coup c'est tout l'inverse du sionisme, on va le voir. Et donc, pour revenir au sionisme, donc, il y a la Grande Dépression avec cette crise économique dont on a déjà parlé, qui intervient notamment à Paris, à Berlin et à Vienne. À Vienne, là où habite Theodor Herzl, donc c'est, comme on l'a dit, un juif qu'on pourrait dire assimilé, comme vous l'avez un peu expliqué, qui est de la bourgeoisie autrichienne. Et en fait, durant cette crise, comme on l'a dit, il y a un retour de la xénophobie et il y a en fait une hostilité par rapport aux juifs pauvres d'Europe, enfin de l'Empire russe, qui cherchent à migrer vers l'Europe occidentale ou l'Amérique du Nord. Donc Herzl, qui est journaliste, couvre l'affaire Dreyfus et il est choqué par l'antisémitisme dont on a parlé. Et c'est là qu'il écrit le manifeste « L'État des Juifs », qui va être le texte de référence du sionisme. Donc moi, je voulais un peu dire quand même ce que dit ce livre. Donc je vais citer quelques mots de ce livre. Donc la première citation, c'est « Les juifs assimilés tireront plus d'avantages au départ des juifs fidèles à leur origine que les citoyens chrétiens eux-mêmes. » Donc le plan d'Herzl vise à débarrasser les juifs occidentaux assimilés des juifs pauvres en provenance d'Europe de l'Est, qui veulent migrer. Et il dit, donc la citation c'est toujours une citation, « Les juifs pauvres contribuent à introduire l'antisémitisme ou à développer celui qui existe déjà. » Donc Herzl pense, toujours en citant, là c'est une citation toujours, « Les plus pauvres doivent s'en aller au plus vite et au plus loin. » Et dans ses journaux, parce que Herzl a aussi des journaux, il explique comment son projet d'envoyer les juifs pauvres hors d'Europe est compatible avec le désir des antisémites de se débarrasser des juifs, quoi.
Ouais, ça, c'est hyper intéressant que tu cites ce genre d'extrait parce qu'on voit à quel point le clivage de classe qui commence à être exacerbé au 19e siècle par la montée du capitalisme embarrasse une population racialisée mais qui est touchée tout à fait différemment par la modernité occidentale. C'est-à-dire, en fait, comme je l'ai expliqué, les juifs d'Europe centrale et occidentale, pour une partie d'entre eux qui avaient fait très tôt le choix de l'assimilation, avaient pu rencontrer pour certains d'entre eux des conditions de succès assez importantes. Bah, on peut penser aux financiers extrêmement connus, aux familles Rothschild qui ont joué vraiment un rôle dans l'expansion banque, enfin dans la banque en fait en Europe, un rôle très très important. Ou il y en a d'autres, évidemment Rothschild, je le cite parce que c'est une famille très très connue quoi. Mais et qui en fait va commencer à être très embarrassée d'être racialisée et donc comme juif et donc associée à des populations qui n'ont pas eu ces mêmes chances d'émancipation, etc., qui sont extrêmement prolétarisés, qui sortent d'un quasi-servage et qui subissent des pogroms inouïs, parce que comme on l'a rappelé, en Russie et dans l'Est de l'Europe, les conditions sont terribles, et qui du coup migrent, et du coup ils sont juifs comme, ils sont juifs eux, les intellectuels, les financiers, les entrepreneurs, ils sont juifs comme ces espèces de pauvres travailleurs en guenilles, immigrés, qui parlent un yiddish bizarre, qui sont complètement... qui les dégoûte en fait, vraiment qui les dégoûte. Et donc en fait le sionisme c'est aussi pensé pour les extraire de l'Europe en fait.
Mais donc en fait dans les différentes propositions du judaïsme qu'on a donc en Europe moderne, on en a deux qui se pensent comme émancipation, mais totalement à l'opposé, parce qu'on a donc le sionisme qui veut une émancipation totale, mais seulement d'eux-mêmes, ou en tout cas une émancipation d'une certaine racialisation, mais encore une fois, je suis pas vraiment sûr, mais c'est surtout ne plus être assimilé avec une certaine caste pour pouvoir vraiment vivre en bourgeois, voilà, au-dessus de tous, alors que le Bund, avec un ancrage socialiste et communiste, va lui proposer donc l'émancipation du peuple juif comme toutes les autres minorités. Elle va se penser justement en minorité pour s'émanciper avec les autres. Et enfin, moi je retiens une petite citation de Elie Wiesel, juste pour la citer parce que je l'aime beaucoup, donc Elie Wiesel qui vivait donc à Sighet en Roumanie et qui comprenait pas pourquoi il y avait d'autres jeunes juifs comme lui qui étudiaient toute la journée le Talmud et qui le soir étudiaient en fait Marx de la même manière qu'il étudiait le Talmud. Et Elie Wiesel va lui poser la question à ce jeune juif marxiste et lui dire pourquoi est-ce que tu étudies ces deux textes de la même manière. Et le juif va lui dire en fait, on a compris que ça n'est pas à nous de libérer le peuple juif, mais que la seule manière de le faire, c'est en libérant le monde entier, et seulement à ce moment-là, les juifs seront libres.
Et du coup, pour revenir un peu à la stratégie de Herzl, on rappelle qu'on est dans un contexte colonial européen, et du coup les sionistes savent que pour avoir un territoire, leur meilleur allié, ce seront les chrétiens antisémites. Donc Herzl se rapproche de la Grande-Bretagne qui a des vues sur la Palestine. Donc juste pour un petit rappel, c'est après la Première Guerre mondiale, l'Angleterre promet à certains peuples arabes l'indépendance s'ils se soulèvent contre l'Empire ottoman, allié à l'époque de l'Allemagne. Et la même année, en 1917, il y a la promesse d'Arthur Balfour, qui est premier ministre britannique, enfin qui fut premier ministre britannique, qui ne l'est pas à l'époque, qui promet aux sionistes un foyer juif en Palestine. Donc Arthur Balfour est un chrétien antisémite quand même.
Mais parce que le sionisme déjà lui-même adhère aux propositions antisémites, déjà d'essentialiser la population juive à une ethnie ou à une nation. Il va y avoir déjà toutes les créations linguistiques, donc de recréer un hébreu moderne. D'ailleurs, il faut quand même le rappeler qui est plus ou moins anti-religieux, parce que cet hébreu moderne n'est pas l'hébreu ancien, antique, mythique et religieux, donc n'est pas l'hébreu liturgique, justement pour que les premiers sionistes, ou en tout cas ceux qui peuvent s'accaparer le projet politique et avoir la mainmise de l'autorité, ça n'est pas les religieux qui, eux, ont une connaissance de l'hébreu ancien, mais ça va être ceux qui seront assez éduqués, assez bourgeois, entre guillemets, qui ont l'éducation suffisante pour apprendre l'hébreu moderne. Donc en fait, dans cette première proposition, il y a l'acceptation totale de la racialisation qui, en fait, n'a plus rien à voir avec toute l'idée de transmission qui était avant. Que ce soit la transmission, d'ailleurs, religieuse ou culturelle, donc du Bund ou des orthodoxes, mais il y a vraiment l'envie de faire lieu commun, mais pas avec tous les juifs non plus. Et enfin, peut-être on verra ça après d'ailleurs avec la création de l'État d'Israël, qui même lui ostracise d'autres populations juives qu'elle reconnaît en tant que juive à quelque part, mais pas assez juive ou pas autant juive qu'elle.
Donc Herzl, sa citation, il dit: la création d'une nouvelle souveraineté n'a rien de ridicule ou d'impossible. Les gouvernements dans les pays desquels sévit l'antisémitisme seront très intéressés à nous procurer la souveraineté. C'était juste pour dire que, avec le mouvement sionisme, Herzl crée une institution politique dont le but est quand même de collaborer avec des grandes puissances coloniales et antisémites.
Mais entre guillemets, Herzl n'est pas bête. Il sait comment parvenir à ses fins, et il voit qui est-ce qui gagne en ce moment. C'est le colonialisme, c'est les États-nations basées sur une idée de race ou une idée en tout cas d'homogénéité de la société, et entre guillemets, à son époque, ça marche. Les États-nations sont en plein essor, les populations, enfin, elles sont en plein essor parce qu'elles colonisent, mais entre guillemets, ce qui marche à ce moment-là, c'est vraiment l'idée d'une état-nation qui homogénéise parfaitement la population et qui permet un ciment de la société parfait pour pouvoir garder la souveraineté du gouvernement.
Voilà, on arrive à la fin de la première partie. Dans une seconde partie, on ira un peu plus loin sur le sionisme, en posant des questions sur son nationalisme, sur son colonialisme, et aussi en se demandant si le sionisme ne serait pas antisémite. Voilà, bonne journée et bonne écoute.